Laudetur Jesus Christus.
L'avancée du M23 continue en RDC. Le groupe armé a pris une localité stratégique pour l'accès aux mines d'or et d'étain. Nous retrouverons notre correspondant dans la région. Une loi pour contrôler la société civile votée en Côte d'Ivoire. Les associations devront notamment rendre des comptes. Un texte critiqué par l'opposition. Dans ce journal également, nous irons en Syrie auprès de la communauté alaouite qui doit fuir au Liban après des exactions. Et puis un paysan péruvien qui s'attaque à un géant énergétique allemand. Reportage à suivre dans les Andes péruviennes. Le mode de vie des populations locales souffre déjà, nous l'entendrons, du réchauffement climatique.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, le cessez-le-feu décrété par les chefs de l'État congolais et rwandais à Doha au Qatar en début de cette semaine ne semble pas être respecté sur le terrain. L'alliance AFC-M23 contrôle désormais une nouvelle agglomération au Nord Kivu, Walikale Centre. Le chef-lieu du territoire portant le même nom est tombé entre les mains de la rébellion. Cette cité minière d'une grande importance ouvre la route du M23 vers d'autres provinces du centre et du nord de la RDC, comme le Maniema et la Tchopo. Notre correspondant dans la région, Augustin Mossangué, nous fait le point sur la situation.
La cité de Walikale Centre, chef-lieu du territoire portant le même nom, serait tombée sans aucune résistance, nous renseigne la société civile de Walikale. Depuis le début de cette semaine, cette agglomération vivait sous menace de l'AFC M23, poussant de nombreuses personnes à fuir le milieu. Alors qu'autour de l'émir du Qatar, cher Tamim bin Ahmad Al-Thani, le président Tshisekedi de la RDC et Kagame du Rwanda avaient décidé, après l'échec de la rencontre de Luanda du 18 mars dernier, d'un cessez-le-feu immédiat, le M23 lui avance. Avec la prise de Walikale, cité minière d'une importance capitale, territoire bien plus vaste que le Rwanda, l'AFC M23 se rapproche dangereusement de Lobutu, sur la route de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, mais aussi de Punia et de Kailo, sur la route de Kindu, chef-lieu du territoire de Maniema. Goma, Augustin Monsinguer, Radio Vatican.
Les inquiétudes des Nations Unies pour les Soudanais. Depuis la recrudescence des bombardements à Khartoum, des dizaines de civils ont été tués, y compris des volontaires humanitaires locaux, déplorent les Nations Unies. Les combats font rage depuis le 12 mars dans la capitale soudanaise entre l'armée qui tente de reprendre Khartoum et les paramilitaires qui possèdent le palais présidentiel. En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi en vue de renforcer le contrôle sur la création et sur le fonctionnement des organisations de la société civile. Cette nouvelle loi à vocation sécuritaire est jugée mieux adaptée à l'évolution des organisations par ceux qui l'ont votée. Mais par ses détracteurs, il s'agit d'une loi attentatoire aux libertés publiques. À Abidjan, Mohamed Lamine.
100 voix pour et 31 voix contre. Ce nouveau projet de loi ainsi adopté ratifie une ordonnance présidentielle de juin 2024 prise pour faire face aux criminalités financières et pour lutter contre le terrorisme. Elle exige des associations de rendre chaque année un rapport général d'activité et un bilan financier afin d'être transparente sur leur fonctionnement. Diverses associations, dont des organisations religieuses, estiment que cette nouvelle loi est une atteinte aux libertés publiques et une ingérence dans la sphère privée. Les députés de l'opposition qui ont soit voté contre la loi, soit boycotté la session, l'ont fortement décrié, la jugeant liberticide et intrusive. Pour Abdoulaye Ben Meïté, président de commission à l'Assemblée nationale, la nouvelle loi protège contre elle la liberté d'association et de culte en mettant un point d'honneur sur la sécurité publique. Jusqu'ici, la loi qui régit les associations en Côte d'Ivoire et partant les organisations de la société civile date de 1960. Pour les autorités, celle-ci était devenue inadaptée dans un pays qui compte 14 000 organisations de formes différentes. Abidjan, Mohamed Lamine, pour Radio Vatican.
Des pourparlers entre la Russie et les États-Unis sur la guerre en Ukraine auront lieu soit dimanche, soit en début de semaine prochaine. C'est ce qu'indique le Kremlin. Pour l'instant, la seule concession de Moscou serait un moratoire réciproque d'un mois sur les frappes visant les infrastructures énergétiques. Mais aucun calendrier n'a été évoqué. Et ces derniers jours, les frappes continuent de part et d'autre. Et c'est une nouvelle journée de bombardement dans la bande de Gaza. Au moins 500 morts depuis mardi matin, selon la défense civile palestinienne. Le chef de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, dénonce un déchaînement sans fin des épreuves les plus inhumaines. Chaque jour, sous nos yeux, les habitants de Gaza revivent encore et encore leur pire cauchemar, estime Philippe Lazzarini. En Syrie, des centaines de familles ont pris la suite aux exactions qui ont eu lieu sur la côte ces dernières semaines. L'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque près de 1500 morts. Parmi eux, des civils de la communauté alaouite dont est issu le clan Assad, tué par la frange la plus radicale des forces alliées au groupe Hayat Tahrir al-Sham qui a pris le pouvoir en décembre. Le nouveau gouvernement syrien a ouvert une commission d'enquête chargée de déterminer les responsables de ces massacres. Mais sur la côte, les violences continuent, c'est ce que racontent plusieurs habitants qui ont fui vers le Liban. Le reportage à la frontière libano-syrienne de Manon Chaplin.
Dans la précipitation, Hassan n'a eu le temps d'emporter que quelques affaires. Des vêtements, des médicaments enfournés à la hâte dans un petit sac. Arrivé devant la frontière libanaise, il doit traverser une rivière. De l'autre côté, l'attendent des voisins, des amis qui ont fui sous les balles avant lui. Mais pour aller où, désormais, demande-t-il.
Je ne sais pas, je vais peut-être essayer d'aller au Canada, dans n'importe quelle région, tant que c'est loin d'ici. La Syrie n'est plus vivable pour nous, c'est fini.
De l'autre côté de la rivière, tous racontent peu ou prou la même histoire. Des dizaines de pick-up, des hommes vêtus de noir, puis le bruit de ses tirs, de ses cris et l'odeur de ses corps restés plusieurs jours à même le sol. Mais qu'avons-nous fait pour mériter ça ? Demande un homme, le pantalon recouvert de terre.
Il se venge de nous parce que Bachar est alaouite, mais nous ne sommes pas Bachar el-Assad.
Asma dort désormais à même le sol d'une mosquée libanaise. Elle habitait Banias, a pris la fuite un matin avec ses 4 enfants à travers champs, avant que son fils, Issam, 10 ans, ne se prenne une balle dans le bras droit.
Ils ont détruit son avenir, celui de tous mes enfants. Il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus d'espoir. Vraiment, nous avons perdu l'espoir en toute chose. S'il n'y a pas de miracle, c'est certain que nous ne pourrons pas revenir en arrière. Maintenant, que sommes-nous censés faire ? Nous sommes condamnés à être déplacés d'un endroit à l'autre, c'est ça ?
Face à l'ampleur des tueries, Asma, comme tous les autres, le répète ici. Nous préférons devenir des réfugiés plutôt que de retourner en Syrie. À la frontière libano-syrienne, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
De nouveaux rassemblements ce jeudi à Istanbul pour protester contre l'arrestation de son maire, Ekrem İmamoğlu, principale figure de l'opposition en Turquie qui devait être investi dimanche comme candidat pour la présidentielle de 2028. Il a été arrêté mercredi. Ses militants parlent d'un coup d'État. Cette semaine a débuté en Allemagne le procès du géant énergétique allemand RWE contre un guide de montagne péruvien qui poursuit l'entreprise pour sa participation au réchauffement climatique. Il accuse l'entreprise allemande de dégrader ses conditions de vie dans les Andes par le biais de ses centrales à charbon. Des conséquences qui inquiètent également beaucoup d'habitants des petites communautés andines. Le reportage de Martin Chabal.
Saúl Iuya est un symbole pour les petites communautés andines au-dessus de la ville de Huaraz. Il porte la voix de beaucoup d'habitants inquiets des effets du changement climatique. Emilio Mendes, 46 ans, accompagne ses quelques moutons et son âne dans les hauteurs, à plus de 4000 mètres d'altitude.
Quand j'étais petit, les glaciers étaient jusqu'en bas, là. Mais aujourd'hui, les glaciers s'en vont, ils reculent chaque année un peu plus, ils fondent.
Il ne monte plus toute l'année à sa ferme.
Maintenant, il fait très chaud, puis très froid. Quand j'étais petit, je vivais tout là-haut. Mais maintenant, les températures sont trop extrêmes à cause du changement climatique.
Carlos Mendoza est lui aussi agriculteur. Pour lui, c'est le bouleversement du cycle des saisons qui menace son activité.
Tout a changé. Par exemple, pour la saison des pluies, avant, ça durait 2-3 mois. Maintenant, ça dure jusqu'à mars et il y a de l'eau partout.
Le procès de Saúl Iuya, guide de montagne péruvien contre le géant énergétique allemand RWE, est un espoir pour tous ces petits villages des Andes qui voient leur quotidien changer à toute vitesse depuis quelques années. Martin Chabal pour Radio Vatican, à Lima.
Et à quelques mois de la COP30 qui aura lieu au Brésil en novembre prochain, un collectif d'ONG et de chercheurs lance un appel à la protection des forêts et surtout propose des mesures pour traduire en actes la promesse d'éliminer la déforestation d'ici 2030. Un engagement qui avait été pris par plus de 140 pays lors de la COP26. C'était à Glasgow en 2021. Il était détenu en Iran depuis octobre 2022. Le français Olivier Grondeau est libre en France et de retour parmi les siens soutien, c'est ce qu'a annoncé ce matin l'Élysée, ajoutant que la mobilisation ne faiblirait pas pour les deux autres derniers ressortissants français retenus en Iran. Merci de votre écoute. Retour de l'information ce soir à 18h. Une très bonne après-midi à toutes et à tous.